Philippe, c'est les séries, ce sont les séries mondiales qui commencent ce soir. Dodgers et les Rays et au bout du fil, l'analyste des matchs du baseball à RDS. Marc Griffin est là. Salut Marc.
Salut monsieur.
Marc, comment peut-on retrouver en série mondiale du baseball une équipe comme les Rays de Tampa Bay dont la masse salariale cette saison est de quoi 28 millions de dollars et c'est à peu près 4 fois plus pour les Dodgers?
La créativité, mon cher Philippe, ça fait un petit bout de temps là, que les Rays démontrent qu'on n'a pas besoin de dépenser plus de 200 millions pour avoir une bonne équipe. Vraiment, chapeau. Je pense que c'est une belle nouvelle pour le baseball. C'est de voir une équipe de la sorte, d'être bâtie de la sorte. On a été innovateurs dans tellement d'aspects baseball, mais aussi d'aspects administratifs que tout le monde est en train d'aller chercher quelqu'un de l'organisation des Rays. Le président présentement des Dodgers est un ancien des Rays.
C'est vrai.
Le directeur général des Astros est maintenant un ancien des Rays. Le directeur général des Red Sox est un ancien des Rays. Ça fait des petits. Ça, en fait, on veut bâtir autour
de
ce
gérant des Blue Jays de Toronto est un ancien de l'organisation des Rays, je pense aussi.
Alors, oui, absolument. Donc, vous voyez que si on est en train de répandre cette façon de faire un peu dans le baseball pour qu'on puisse éviter de dépenser 200 millions. Et se retrouver, évidemment, encore une fois.
Sauf que tous ces gens-là, quand ils quittent Tampa Bay, notamment avec les Dodgers de Los Angeles, ben, ils retrouvent vite le chéquier, là. Ils semblent oublier qu'ils ont fait ça d'une façon différente à Tampa Bay. Je regarde la masse salariale des Dodgers, là, ils n'ont jamais trop hésité.
Non, ça, c'est vrai. C'est sûr que c'est toujours tentant lorsque le signe de pièce est tout prêt, mais ça reste que. Je pense que ce que les Rays sont en train de créer va vraiment aider finalement le baseball à faire des choses de façon un peu différente. Puis, ça nuit pas du tout au spectacle. Bien au contraire, on découvre des jeunes joueurs qui sont fantastiques, qui arrivent d'à peu près nulle part et qui nous offrent des prestations comme ça. Moi, je trouve que c'est très rafraîchissant.
Est-ce que c'est un accident, tu penses?
Le fait d'avoir les Rays connaître ce succès-là?
Oui, oui.
Ben non, parce que on a encore, tu sais, on a bâti avec un réseau de filiales qui est encore en passant le meilleur réseau de filiales. Donc, on est non seulement en série mondiale actuellement avec une masse salariale qui est très basse, mais en plus, on a le meilleur réseau de filiales. On a le prospect numéro un de tout le baseball qui est Wander Franco, qui est dans l'organisation des Rays. Donc, on a fait les choses de la bonne façon. C'est sûr qu'on a utilisé ce qu'on appelle l'analytique, les espèces de statistiques avancées pour bâtir nos équipes. On a créé les défenses adaptées vraiment lorsque Joe Maddon était là. Il y a même eu 4 voltigeurs dans la série face aux Astros de Houston. Il n'y a pas d'autre organisation qui ose vraiment aller de la sorte. On a créé l'ouvreur qu'on appelle, donc ce fameux releveur qui commence des matchs. Donc, on est très innovateur, puis ça fonctionne.
C'est drôle parce que Stephen Bronfman, quand il a fait la promotion du retour d'une équipe de baseball majeure à Montréal avec le club à deux têtes, là, disait tout le temps...
En garde partagée.
Oui, c'est ça, disait tout le temps. Les Rays, et là, je vais reprendre l'expression en anglais, hein, ils pensent « outside the box », qu'on traduit très mal en disant « ils pensent en dehors de la boîte de façon assez créative ». Et c'est vrai, puis tu viens d'expliquer comment ils le font, Marc. Cela dit, quand une équipe a autant de succès, souvent, le marché dans lequel elle évolue réagit bien. On a vu ça souvent, des équipes pour qui c'était difficile. Oups, gagnent un championnat ou vont très loin. Puis là, il y a un engouement. Puis là, la base de billets de saison augmente. Puis tout ça. Est-ce que le succès des Rays pourrait paradoxalement nuire au projet d'une garde partagée pour Montréal?
Non. Moi, je réponds non. Parce que si tu regardes l'histoire des Rays, chaque fois qu'il y a eu des courses au championnat, en fait, c'est une deuxième participation à la Série mondiale. Donc, la première, on se disait la même chose. Parce que c'est pas dire qu'il y a des problèmes d'assistance à Tampa Bay. Ça n'a pas levé. Ça n'a pas empêché ou ça n'a pas fait en sorte que l'engouement dont tu parles, où on a doublé, par exemple, les billets de saison ou les revenus publicitaires, ça n'a pas été le cas. Donc, tu as deux éléments où pourquoi je dis non. Celui que je viens de mentionner, où l'histoire nous permet de croire que malgré donc des courses au championnat ou des rivalités extraordinaires, ça n'a pas créé l'engouement. Et deux, ben je répète les propos même du président, propriétaire de l'équipe, qui disait pour la survie de cette franchise-là, peu importe le succès sur le terrain, ça passe par la ville partagée. Alors, il s'est mouillé là-dessus.
Mais sa première option, Marc, au propriétaire, c'était d'avoir un terrain dans la région de Tampa, là, mais un plus beau stade, mieux situé quand même.
Oui, ben absolument. On veut sortir du
fameux bail. Puis là, la ville ne veut pas. Là, c'est un peu complexe, là, mais ils ont un bail, puis les autorités municipales ne veulent pas laisser les Rays s'en sortir. Là.
Mais c'est quand même des propos assez puissants lorsqu'il dit, peu importe, le même si on a un nouveau stade, parce qu'il a dit, même si j'ai un nouveau stade, je pense que le concept de ville partagée reste celui le plus viable pour le marché actuel. Alors, tu sais, il s'est vraiment peinturé dans le coin, selon moi. Bon, est-ce que ça va faire en sorte qu'il y ait quelqu'un très puissant autour de Tampa Bay en termes de politique qui va dire, écoutez, on va régler ça, on va régler le bail, on va se trouver quelque chose? Peut-être. Mais l'histoire nous dit que ça n'arrivera pas.
OK. Dernière question, rapidement, Marc. Qui va gagner cette série mondiale entre les Dodgers et les Rays? Tu te risques une prédiction?
Oui, mais tu sais, lorsqu'on parle d'un gagnant en 6 matchs, parce qu'à quelque part, on n'est pas trop sûr, là, mais je vous dirais que je pense que les Dodgers, c'est leur année. Tu sais, Clayton Kershaw mérite une série mondiale, selon moi. Là, bon, j'espère qu'il va pouvoir se défaire de cette réputation en série. Les Dodgers sont mûrs pour en gagner une, mais personne ne serait déçu de voir les Rays gagner aussi. Donc, ça va être, je pense, une très, très belle série mondiale.
On te et on nous souhaite de l'excellent baseball, Marc.
Merci beaucoup, messieurs.
Salut.
Salut.
Marc Griffin, l'analyste des matchs de baseball à RDS. Qui va gagner, Philippe?
Les Rays. Ouais, bon, juste pour le fun. Non, mais c'est vrai, c'est une belle histoire. Ça serait vraiment sympathique.
Très bien. Et Catherine, tu as eu la chance de parler avec Fabrice Cabrel.
Fabrice Cabrel, Francis.
Dans
Cabrel.
Ma tête, j'appelle toujours Fabrice Cabrel.
Oui, pour son 14e album, À l'aube revenant.
Est-ce que tu es tombé sous le charme?
Absolument.
16h34.